Épisode 1. Édipe, le Coryphée, Tirésias.
Vous avez formé un vœu, et l'objet de ce vœu, si vous voulez écouter mes conseils et faire ce qu'exige la nature du fléau, vous pourrez l'obtenir. Je veux dire un remède et un soulagement à vos maux. Pour moi, étranger à ce qui a été dit de Laios, étranger au crime, je partirai. Voici ce que j'ai à vous dire, car je ne saurais aller loin dans mes recherches si je n'obtenais de vous quelque indice. Maintenant, moi qui compte récemment au nombre des citoyens, voici ce que je proclame à vous tous, habitants de la ville de Cadmos. Si l'un de vous sait quelle main a tranché les jours de Laios, fils de Labdakos, qu'il me révèle tout, je l'ordonne. Et si la crainte retient le coupable, qu'il se dérobe à l'accusation en s'accusant lui-même, et se retire sain et sauf de ce pays, car il ne lui sera pas fait d'autre mal. Ou bien, si l'un de vous sait que le meurtrier vit sur une terre étrangère, qu'il parle. Je lui promets récompense, et de plus, ma reconnaissance lui est assurée. Mais si vous gardez le silence, si, par crainte pour soi-même ou pour un ami, on se refuse à mon ordre, apprenez donc ce que je ferai dès lors. Cet homme, quel qu'il soit, je défends, à tout habitant de cette contrée où je règne, de le recevoir, de lui adresser la parole, de l'admettre aux prières et aux sacrifices divins, de lui présenter l'eau lustrale. Que tous le repoussent de leur maison, comme le fléau de la patrie, ainsi que me l'a ordonné naguère l'oracle du dieu qu'on adore à Delphes. En agissant ainsi, j'obéis au dieu, et je venge le roi qui n'est plus. Je maudis l'auteur caché du crime, soit qu'il l'ait commis seul, ou qu'il ait eu des complices, et que, proscrit partout, il traîne misérablement sa vie. Et s'il est admis dans mon palais, à mon foyer et de mon consentement, je me voue moi-même aux imprécations que je lançais tout à l'heure contre les coupables. C'est à vous, Thébain, d'exécuter tous ces ordres pour venger le dieu et moi-même et cette terre frappée de stérilité et de la colère céleste. Et lors même que la recherche du meurtrier n'aurait pas été commandée par les dieux, il ne vous convenait point de laisser sans expiation un crime qui vous a ravi votre roi, le meilleur des hommes. Non, il fallait rechercher le coupable. Mais aujourd'hui que je suis monté sur le trône qu'il occupait, et que j'ai reçu la main de son épouse, et que mes enfants et les siens seraient frères s'ils avaient vécu, mais la fortune était déchaînée contre lui, à tous ces titres, je vengerai sa mort comme celle de mon père, et je ferai tout pour découvrir le meurtrier du fils de Labdakos, du descendant de Polydore, de Cadmos et du vieil Agenor. Ceux qui refuseront de souscrire à mes ordres, fassent les dieux qu'ils voient leurs champs sans moisson et leurs épouses sans enfants, mais qu'ils meurent du fléau qui nous désole ou d'une mort encore plus affreuse. Quant à vous, Thébain, qui approuvez mes desseins, que toujours la justice vous protège et que tous les dieux vous soient favorables.
Puisque tes imprécations m'y contraignent, je parlerai. Je n'ai pas tué Laios, et je ne puis indiquer le meurtrier. Et quant à sa recherche,
c'était à Phoïbos
qu'il a ordonné à faire connaître l'auteur du crime.
Tu dis vrai, mais contraindre les dieux à faire ce qu'ils ne veulent point n'est pas au pouvoir d'un mortel.
Je pourrais te proposer un second avis, qui me semble bon.
Si même tu en as un troisième, ne crains pas de le dire.
Le puissant Tirésias, je le sais, partage avec le puissant Apollon la science de l'avenir, et en l'interrogeant, on pourrait obtenir de lui d'importantes révélations.
Je n'ai pas négligé non plus cette voie. En effet, sur la vie de Créon, j'ai envoyé vers lui un double message, et je m'étonne qu'il tarde si longtemps.
Quant aux autres bruits qui ont couru, ils sont sans fondement et surannés.
Quels sont ces bruits? Je veux approfondir tout ce qui se dit.
Laios fut tué, dit-on, par des voyageurs.
Je l'ai aussi entendu dire, mais personne ne connaît de témoin.
Mais le coupable, s'il est accessible à la crainte, lorsqu'il connaîtra tes imprécations si terribles, ne persistera-t-il pas dans son silence?
Celui que le crime n'effraie point ne craint pas les paroles.
Mais il y a quelqu'un qui saura bien le découvrir. Voici en effet qu'on amène ici le divin prophète, qui, seul entre les mortels, a le don de la vérité.
Entre Tirésias.
Tirésias, toi dont l'esprit embrasse tout, et les sciences des hommes, et les secrets des dieux, et les choses du ciel, et celles de la terre, bien que privé de la vue, tu sais cependant quel fléau désole cette cité. En toi seul, ô prince, nous trouvons pour elle un appui et un sauveur. Apollon, si mes envoyés ne te l'ont pas appris, a répondu à notre demande, que le seul remède à cette contagion serait de découvrir les meurtriers de Laios et de les faire périr ou de les bannir de cette contrée. Toi donc, ne nous refuse pas ton secours. Consulte le vol des oiseaux et les autres ressources de l'art prophétique. Sauve Thèbes, et toi-même, sauve-moi, et purifie-nous de toutes les souillures du meurtre. Car en toi est notre espoir, servir les hommes, de toutes les ressources que donnent le savoir et la puissance, est le plus glorieux des travaux.
Hélas, hélas, que la science est un présent funeste lorsqu'elle ne profite pas à celui qui la possède. Je le savais et je l'ai oublié, autrement je ne serais pas venu ici.
Qu'y a-t-il? En quel découragement tu nous arrives?
Laisse-moi repartir, car toi et moi nous porterons plus facilement le fardeau de nos peines, si tu veux m'en croire.
Tu as tort de parler ainsi, et c'est manquer d'amour pour cette ville qui t'a nourri que lui refuser l'explication de l'oracle.
C'est que je vois que tu parles hors de propos. Je me tais donc pour ne pas encourir le même reproche.
Au nom des dieux, ne nous dérobe pas ce que tu sais. Tu nous vois tous à tes pieds, en suppliant.
Et c'est que vous êtes tous dans le délire. Mais moi, non, jamais je ne révélerai mes misères pour ne pas révéler les tiennes.
Que dis-tu? Tu sais tout et tu refuses de parler? Tu veux donc nous trahir et ruiner Thèbes de fond en comble?
Je ne veux affliger ni toi ni moi-même. Pourquoi m'interroger inutilement? Tu n'apprendras rien de moi.
Le plus pervers des hommes, car enfin ta résistance irriterait d'un rocher. Ne parleras-tu pas enfin? Tu resteras donc inflexible ou inexorable?
Tu me reproches des paroles irritantes, mais tu ne vois pas ce que chez toi irrite les autres, et pourtant tu m'outrages.
Et qui ne s'irriterait d'entendre un tel langage et du mépris que tu montres pour cette cité?
Ce fatal secret se révélera de lui-même, malgré le silence dont je le couvre.
Si donc il doit se révéler, il est bien juste que tu me le dises à moi-même.
Non, je n'ajouterai pas un mot. Après quoi, livre-toi aux accès de ta farouche colère.
Eh bien oui, tant je suis en colère, je n'omettrai rien de tout ce que je pense. Sache donc que tu me parais avoir conçu comme la pensée du crime. Et l'avoir accompli, si ce n'est que ta main n'a pas porté le coup? et si tu n'étais pas privé de la lumière, je t'accuserais de l'avoir commis à toi seul.
Vraiment ? Et moi, je t'ordonne de te conformer à l'arrêt que tu as prononcé, et dès ce jour de ne parler ni à moi, ni à aucun des témoins, car tu es l'impie qui souille cette terre.
Oses-tu bien proférer des paroles si imprudentes, et crois-tu échapper au châtiment qu'elles méritent ?
Oh, j'y échappe, car j'ai en moi la force de la vérité.
Et qui te l'a apprise ? Assurément, ce n'est point ton art.
Et toi-même, car c'est toi qui m'as contrainte à parler.
Qu'as-tu dit ? Répète-le encore pour que je le sache mieux. Je veux le bien savoir.
N'as-tu pas entendu la première fois ? Ou veux-tu m'éprouver ?
Non, pas assez pour dire que je le sache. Répète donc.
Je te dis que tu es ce meurtrier de la Ios que tu cherches.
Tu ne m'outrageras pas deux fois impunément.
Ben, faut-il donc t'en dire davantage pour redoubler ta colère ?
Dis tout ce qu'il te plaira, tes propos seront vains.
Je te le déclare, tu ignores les horribles nœuds que tu as formés avec ce que tu as de plus cher, et tu ne connais pas tout ton malheur.
Penses-tu donc que ces injures resteront toujours impunies ?
Oui, si la vérité a quelque puissance.
Oui, elle en a, mais non dans ta bouche. Tu ne peux l'invoquer, toi dont les yeux, les oreilles et l'esprit sont à jamais fermés.
Oh, tu es bien malheureux de me reprocher ce que bientôt chaque témoin te reprochera à toi-même.
Toi qui vis dans d'éternelles ténèbres, tu ne saurais nuire ni à moi, ni à aucun de ceux qui voient la lumière.
En effet, ton destin n'est point de tomber sous mes coups. Apollon suffit. C'est lui que la vengeance regarde.
Ces inventions sont-elles de Créon ou de toi ?
Oh, ce n'est pas Créon qui cause ton malheur. Toi seul en es l'auteur.
Richesse, pouvoir suprême, sagesse qui nous élève au-dessus des autres, dans cette vie remplie de tant de rivalités, combien vous êtes exposés à l'envie. Si pour cet empire que les Thébains m'ont déféré de leur propre choix sans que je l'aie demandé, Créon, cet ancien, ce fidèle ami, trame contre moi des intrigues secrètes dans le désir de me renverser, et suborne ce misérable devin, cet artisan de fraude, ce charlatan, clairvoyant pour le gain seul, mais aveugle dans son art. Car enfin, dis-moi, où as-tu été bon prophète ? Lorsque le sphinx proposait ici ses énigmes, comment n'as-tu pas donné aux Thébains quelques moyens de s'en délivrer ? Cependant, il n'appartenait pas au premier venu d'expliquer l'énigme. C'était la tâche du devin. Ni le vol des oiseaux, ni aucun des dieux ne t'en ont fait pénétrer le sens. Mais moi, mortel ignorant, à peine arrivé dans Thèbes, j'ai confondu le monstre par le seul secours de ma raison, et sans consulter le vol des oiseaux. Aujourd'hui, tu travailles à me renverser, dans l'espoir de prendre place auprès du trône de Créon. Mais ce ne sera pas impunément, je pense, que toi et l'auteur de ces intrigues vous prétendez me chasser comme un être impur. Et si je n'excusais ta vieillesse, tu connaîtrais déjà le châtiment que mérite ton délire.
À notre sens, ces paroles et les tiennes, Édipe, nous paraissent dictées par la colère. Il faut faire trêve à de pareils débats. Nous devons seulement songer au meilleur moyen d'accomplir l'oracle du dieu.
Bien que tu sois roi, Édipe, il y a cependant cette égalité entre nous que je puis te répondre, car moi aussi j'en ai le droit. Je ne suis pas ton sujet, mais celui d'Apollon. Je n'ai point Créon pour patron et ne suis pas inscrit au nombre de ses clients. Tu me reproches d'être aveugle, mais toi, malheureux, toi qui jouis de la lumière, tu ne vois pas en quel abîme de mots tu es tombé, ni où tu habites, ni avec qui tu demeures. Sais-tu qui t'a donné le jour ? Tu ignores ce qui te rend exécrable à tes proches, sur la terre et à ceux des tiens qui sont devenus dans les enfers. Armée d'un double fouet, la malédiction de ta mère et de ton père, déesse à la marche terrible, te rejettera de cette contrée. Et si tu vois clair maintenant, bientôt tes yeux ne verront que des ténèbres. Quel asile ne retentira pas de tes cris? Quel antre du Citéron ne les répétera pas lorsque tu connaîtras l'hymen fatal, écueil où est venu échouer ton bonheur? Tu ne sais pas l'orage de mots qui fondra sur toi et qui, en te montrant qui tu es, te rendra l'égal de tes enfants. Maintenant donc, déchaîne ta colère, tes outrages contre Créon et contre mes paroles, car jamais nul mortel ne sera plus misérablement que toi accablé par le sort.
Est-il donc possible de supporter ces outrages d'une telle bouche? Malédiction sur toi! Ne partiras-tu pas, ou plutôt, ne t'éloigneras-tu pas enfin de ces lieux?
Je ne serais point venu si tu ne m'avais appelé.
C'est que je ne savais pas que tu tiendrais des discours insensés. Autrement, je ne me serais pas pressé de te faire venir dans mon palais.
Voilà donc ce que je suis, à ce qui te semble, un insensé. Mais les parents qui t'ont donné le jour me jugeaient raisonnable.
Quels parents? Arrête! Quel mortel m'a donné la vie?
Ce jour va te donner la naissance et la mort.
Comme toutes tes paroles sont énigmes obscures.
Mais n'excelles-tu pas dans l'art de les expliquer?
Reproche-moi un fait où tu trouveras la preuve de ma grandeur.
C'est pourtant cette fortune même qui t'a perdu.
Si du moins j'ai sauvé Thèbes, peu m'importe le reste.
Eh bien, je me retire. Enfant, conduis-moi.
Qu'il t'emmène donc, car ta présence me trouble et m'importune. Une fois parti, tu ne me fatigueras plus.
Je partirai, mais après avoir dit ce qui m'amenait ici, et sans craindre ton visage menaçant, car il n'est pas en ton pouvoir de me faire périr. Je te le dis donc, cet homme que tu cherches avec tant de menaces par tes édits contre le meurtrier de Laios, il est dans Thèbes, où il passe pour étranger, mais bientôt il sera reconnu pour Thébain indigène. Oh, il n'aura pas à se réjouir de l'aventure, car il perdra la vue. Il perdra ses richesses, aveugle et pauvre, il errera sur une terre étrangère, cherchant sa route, le bâton à la main. Il sera reconnu pour être à la fois le frère et le père de ses propres enfants, le fils de la femme qui lui a donné le jour, et le meurtrier de son père, dont il a souillé la couche. Maintenant, rentre dans ton palais et réfléchis à ces paroles. Et si tu me prends en mensonge, dis alors que je n'entends rien à la divination.